Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, 10h-11h, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans vos animaux. Je ne sais pas si le gagnant de ce gros lot du loto nous écoute. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Alors, si votre chien ou votre chat est le roi des bêtises, vous ne savez plus comment vous y prendre avec lui, 0826-300-300, n'hésitez pas à venir nous raconter votre histoire. En compagnie de deux spécialistes, Chloé Fesch, éducatrice canine, et Sandy Descorcia, notre éducatrice, nous essaierons de vous trouver la bonne solution. Dans notre séquence à l'état sauvage, le professeur Jeanne Brugère-Picou nous dira si nous avons des raisons de nous inquiéter de la grippe aviaire qui sévit actuellement dans le sud-ouest. Enfin, je recevrai une star qui fait danser les stars en fin d'émission, Denitsa Ikonomova, avec deux autres de ses amis danseurs de Danse avec les stars, Maxime de Rennes et Katrina Patchette. Ils proposent ce week-end un vide-grenier au profit de l'Arche des associations qui regroupe une vingtaine d'associations de protection animale. Vous verrez, Denitsa est absolument passionnée par les animaux. 0826-300-300 si vous souhaitez réagir, si vous souhaitez nous poser vos questions, nous faire part de vos petits soucis avec vos animaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. C'est dans quelques minutes.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux. Et vous ?
Au secours, mon chien ou mon chat fait des bêtises à longueur de journée dès que j'ai le dos tourné, voire même sous mon nez. Ça peut faire rire au début, mais en tout cas, il faut souvent trouver des solutions. Pour cela, pas de panique, nous avons deux spécialistes à nos côtés. Chloé Fesch, bonjour Chloé.
Bonjour.
Chloé, vous êtes éducatrice canine, vous intervenez régulièrement dans cette émission pour nous aider justement dans l'éducation de nos toutous. Et à vos côtés, Sandy Descorcia. Bonjour Sandy.
Bonjour Natacha.
Notre éducatrice préférée, car oui, les chats aussi, ça s'éduque. Alors c'est vrai que les bêtises de nos animaux, au début on prend ça un peu à la rigolade, on trouve ça plutôt rigolo, mais au bout d'un moment ça peut quand même être problématique, d'abord parce que ça peut parfois les mettre en danger, et puis c'est pas toujours très drôle de voir son appartement dévasté quand on rentre du travail, ou le chat s'attaquer par exemple au sapin de Noël. Eh bien justement, première question de Janine qui nous a écrit sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à nous contacter également au standard 0826-300-300. Janine nous dit, moi j'ai un petit chat de gouttière qui a 3 ans, il est absolument adorable, mais l'époque du sapin de Noël est toujours compliquée à vivre parce que mon chat adore se pendre au sapin. Dites-moi Sandy, le sapin de Noël, c'est vrai que pour les chats c'est quand même un truc super attirant.
Ah, c'est très attirant, puisque déjà, comme on le voit, c'est que c'est un arbre, et on se rappelle que nos chats adorent les hauteurs et les arbres. Donc là, évidemment, on vient de lui rajouter une hauteur super rigolote. Et en plus, généralement, il y a des petits objets qui pendent et qui font du bruit.
Oui, donc tout ce qu'il faut pour attirer le chat. Simplement, quand on a fait un joli sapin, on n'a pas forcément envie qu'il soit dévasté en 24 heures par le minou de la maison.
Alors effectivement, et puis c'est tout à fait possible. Moi j'ai un magnifique sapin, hein, je vous l'enverrai en photo si vous voulez. J'ai mes deux chats, voilà, qui le respectent depuis des années, parce que d'abord il faut essayer de leur mettre des hauteurs pas loin de l'arbre pour qu'elles se disent ah bah oui, il y a le sapin, mais il y a aussi mon arbre à chat qui est juste à côté et qui est mieux. Ouais. Et puis moi j'ai une technique, c'est que je présente toujours le sapin d'abord et les guirlandes et les boules au sol. Je les présente sans qu'elles bougent pour qu'elles s'habituent et qu'elles trouvent que c'est pas si fun que ça. Mmh. Et ensuite seulement je les mets sur le sapin.
Et ça marche bien votre technique ?
Ça marche pas mal, parce qu'il faut vraiment comprendre que on demande à un chat de ne pas aller jouer avec un jouet géant. C'est compliqué, c'est très compliqué pour lui. Donc il faut voilà.
En plus,
il faut
vraiment... ça clignote, ça brille, c'est vraiment formidable.
C'est l'idéal. Et j'ai même des clients qui parfois vont pousser l'extrême jusqu'au bout. Ils utilisent des guirlandes en plumes. Alors là.
Ah oui, non, mais là, c'est vraiment jouer avec le feu.
Oui, là, dans ces cas-là, je vais être très honnête. Il y a certains chats, surtout les chats qui sont très chasseurs, qui aiment beaucoup jouer. Bon, je dis, on va peut-être enlever la plume.
À lire le message de Janine, quand même, Sandy, on a l'impression qu'elle n'a pas présenté les guirlandes au sol à son chat avant. Le sapin est déjà fait. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Comment doit-elle réagir lorsque le chat se jette sur le sapin ?
Alors, s'il fait vraiment l'action de se jeter sur le sapin, on le prend, on le pose au sol, tout simplement. On peut lui dire non, ça sert à rien de crier, de hurler. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est qu'à côté, en amont, il faudrait qu'elle fasse jouer son chat un petit peu plus. Parce que si ça se trouve, c'est juste qu'il s'ennuie un petit peu. Et donc, il a trouvé cette nouvelle occupation.
D'accord. Eh bien voilà, Janine, j'espère que vous êtes à l'écoute de Sud Radio. Ce matin, vous nous avez écrit sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire comme Janine. N'hésitez pas non plus à composer le 0826 300 300. Nos deux spécialistes en comportement canin et félin sont là pour nous aider à résoudre les petites bêtises de nos animaux. On repart au standard avec Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour Natacha.
Merci Cécile d'être avec nous en ce samedi matin. Vous Cécile, vous avez un chien.
Tout à fait. C'est un Doberman, un jeune Doberman de 2 ans, qui est très gentil et qui lui ne touche pas le sapin. Par contre, c'est un voleur.
On l'entend d'ailleurs. C'est un voleur, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ah, il vole quoi ?
Les skis à table. S'il a la moindre occasion de voler à table, c'est parti.
Bon, alors là, on va appeler tout de suite Chloé au secours. Chloé, qu'est-ce que l'on peut conseiller à Cécile pour son Doberman ? Comment s'appelle-t-il, votre Doberman ?
Ozo.
Ozo.
Ok. Alors, déjà, là, ce qui se passe, c'est que donc Ozo a compris hein, que quand il était en capacité de monter sur la table, eh ben, il se renforçait parce qu'il obtenait quelque chose d'assez sympa. On n'oublie pas que le chien, c'est un opportuniste. Donc, tout ce qui va lui permettre d'obtenir du plaisir, il va apprendre ce comportement qui lui a permis d'obtenir du plaisir et il va le répéter tant que ça fonctionne. Donc là, on est sur un comportement qui s'auto-renforce. Ça veut dire que on pourrait imaginer attendre qu'il ait terminé de voler pour lui dire c'est bien d'arrêter. Mais en fait, ça fonctionnera pas. Il va vraiment falloir travailler sur l'environnement. Donc, dans un premier temps, vu que là, le chien a déjà fait l'apprentissage que voler à table, en fait, pour lui, il vole pas, hein, il se sert, hein, il prend...
Oui, c'est ça, c'est là, à disposition.
Voilà, dans sa tête, il n'est pas du tout dans l'inégalité.
Ça sent bon.
Hein. Exactement, c'est exactement ça. Donc, la première chose, c'est de contrôler l'environnement pour éviter qu'il se renforce à nouveau. Donc, on va vraiment essayer de ne pas laisser à disposition quand on n'est pas présent. Parce que ce que le chien risque de comprendre, c'est que quand mon maître est là, je peux pas y toucher quand il n'est pas là. C'est libre service. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ce que cette expérience ne se reproduise pas dans sa vie au maximum. Et après, tout le travail se fera en notre présence. Ça veut dire qu'on va lui apprendre que cette chose-là, c'est interdit. Et en revanche, on va lui apprendre qu'un autre comportement sera celui qui sera renforcé. Donc par exemple, aller au panier lui permet d'obtenir un os à mâcher.
Ouais. Et, moi je sais que vous avez toujours de très précieux conseils pour nos auditeurs. Moi, à titre personnel, j'ai eu à une période un chien qui est décédé aujourd'hui, qui était voleur. Et je peux vous assurer qu'on a beau parfois essayer de mettre en place tout ce que vous expliquez là, ça peut être extrêmement compliqué. Et j'ai souvenir d'une période de fête comme ça, où à un moment donné, chez ma belle-mère, tout le monde avait le dos tourné et le chien a avalé le rôti. Et là, on est un peu mal. Bon, elle a eu du mal à digérer le rôti, mais n'empêche qu'elle était très contente. Pour nous, c'était trop tard et c'était quand même régulier. Oui. C'était une chienne qui volait en permanence.
Ouais, mais c'est ça, c'est qu'en fait c'est très compliqué quand le chien a déjà compris que ça marchait quoi. Ouais. C'est un peu comme si à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, il y a de l'argent qui tombe gratuitement comme ça, il y a rien à faire, on appuie sur le bouton, ça arrive. On va avoir tendance à appuyer tout le temps.
Bah hein, oui.
Donc, ça va être assez compliqué. Et la seule chose qui va permettre d'arrêter le fait qu'on a envie d'appuyer sur le bouton, c'est quand à ce moment-là il n'y a plus de conséquences positives pour nous. C'est pour ça que vraiment le plus gros du travail se fait. Alors, en théorie, il se ferait avant, c'est-à-dire que quand on a un chou, on va absolument éviter qu'il fasse cet apprentissage. Puis quand cet apprentissage est déjà là, il va vraiment falloir travailler sur limiter la casse au maximum pour faire en sorte que ça apparaisse le moins possible. Mmh. Mais par contre, une fois que le chien a compris ce truc-là, évidemment, c'est à vie. Donc, il va vraiment falloir travailler de façon très, très rigoureuse. Et c'est pas toujours facile quand on a une vie de famille.
Parce que quand on l'envoie, par exemple, à son panier et qu'on le récompense à ce moment-là, c'est pas toujours facile de trouver une récompense qui soit plus intéressante que le magnifique rôti qui sentait très, très bon.
Oui, et c'est vrai que dans ce genre de cas, on peut même mettre un peu de d'inhibition, donc ça veut dire une petite contrariété verbale, un peu comme un petit nom, mais qui serait acquis d'abord positivement, qui apprend au chien que, en fait, cette chose-là, c'est pas ce qu'on attend de lui. Mm-hmm. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je mets sous forme d'exercice au préalable. Par exemple, mon chien a une indication qui est ratée, c'est ce que tu fais là, c'est pas la bonne, essaye autre chose. Et du coup, c'est pas une punition pour lui, c'est juste, c'est pas ce qui me permet d'obtenir. Et du coup, je vais lui apprendre que ce qui lui permet d'obtenir, c'est moi et pas l'environnement. Donc c'est aussi important de, notamment quand on récompense son chien, de le faire pour qu'il comprenne que ça vient de moi et pas de l'environnement. Il y a un petit exercice tout simple qui consiste à mettre un bol de friandises au sol, de s'asseoir à côté, et quand le chien veut prendre les friandises, on va tout simplement les lancer en dehors du bol pour qu'il comprenne que à aucun moment il peut prendre dans le bol. C'est moi qui ai l'action de lui donner la récompense. Voilà, c'est la condition, c'est que moi je touche la récompense pour lui donner.
Ça et paraît un peu dur, mais effectivement, ce sont des petits mécanismes qui permettent d'obtenir satisfaction.
Voilà, ou en tout cas un peu moins de le comportement de voler à table va probablement diminuer quand on met en place tout ça. Mmh. Pareil, le fait de bien le dépenser, etc., ça ne peut que aider. Mais voilà, c'est vrai que cet apprentissage qui s'auto-renforce, c'est très difficile de l'éradiquer complètement. Mmh. Ça va vraiment dépendre du protocole, puis de la motivation du chien, parce qu'il y a des chiens qui, de toute façon, pour eux, le poulet aura toujours plus de valeur que tout ce que vous pouvez lui proposer à côté, quoi.
Ouais. Cécile, peut-être vous pouvez travailler aussi avec un éducateur canin qui vienne chez vous pour vous aider à mettre en place un peu tous ces mécanismes que nous explique Chloé. Ah, je ne sais pas, on a perdu Cécile.
Bon.
Eh bien Cécile, j'espère que vous allez écouter la fin de cette interview parce que c'est vrai que c'est un problème de résoudre ce petit souci des animaux voleurs. Mais grâce au conseil de Chloé, généralement, ça peut quand même s'arranger. On repart au standard de Sud Radio car nous avons Mélissa qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Mélissa, vous avez également un chien qui s'appelle Pablo, je crois.
Exactement, un petit cavalier.
Ah, Mélissa, petit souci de liaison. On va essayer de rappeler Mélissa dans quelques minutes. J'ai une autre question cette fois-ci qui concerne un chat qui malheureusement fait ses griffes sur le canapé. Ça, c'est pour vous, Sandy. C'est Isabelle qui nous a écrit sur Facebook pour nous parler de son chat qui n'arrête pas d'abîmer son canapé. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Isabelle ?
Ah, c'est un grand classique, hein, oui. Le chat et le canapé. Donc rassurez-vous Isabelle, vous n'êtes pas seule déjà, et il y a des techniques qui marchent très très bien. Il faut juste comprendre que le canapé souvent est plus stable et plus solide que les griffoirs qu'on a chez nous, et également il est bien placé. Donc essayez de placer un petit griffoir.
Ça veut
ou
dire
un
quoi
griffoir
bien
d'angle.
Placé?
Ah, ça, voilà. Alors ça, il faudrait que je voie chez Isabelle, mais dans l'idéal, en gros, il faut que votre chat, quand il fait ses griffes à un endroit, c'est un lieu de passage. Alors, de passage d'humains ou d'autres animaux ou d'autres chats, peu importe. Mais en tout cas, il faut que visuellement, il y ait du sens quand on met le griffoir. Donc, si vous mettez votre griffoir parce que vous le trouvez pas joli, au fin fond d'une pièce, c'est normal qu'il ne l'utilise pas. Mmh. Donc, on le place vraiment à un endroit un petit peu plus stratégique, quitte à ce que ce soit au début, à côté, à l'endroit pile où fait le chat, ou fait ses griffes votre chat, c'est-à-dire que là pour Isabelle, elle pourrait coller son griffoir contre le canapé à l'endroit où son chat fait ses griffes.
J'imagine tout à fait le chat passer entre le canapé et le griffoir pour continuer à s'attaquer au canapé.
C'est possible, donc on peut feinter en mettant un petit plaid ou une couverture en laine sur le canapé, afin que la texture soit moins agréable pour faire ses griffes. Et comme ça, comme on a un griffoir qui est au bon emplacement, avec une bonne texture, et qu'en plus on l'aura bien stabilisé pour que ça ne bouge pas quand je fais mes griffes, normalement le comportement va petit à petit se bouger vers le griffoir. Et ensuite, oui, on peut enfin bouger légèrement son griffoir et le mettre à un endroit un petit peu plus adéquat. Mais voilà, dans l'idéal, il faut vraiment comprendre emplacement, stabilité et hauteur et solidité, et la texture, parce qu'il y a certains chats qui préfèrent le cuir, malheureusement, que leur griffoir. Dans ce cas-là, on leur fabrique un petit griffoir avec une texture qu'ils aiment, effectivement.
C'est effectivement un grand classique. Merci beaucoup, Sandy, pour ce conseil adressé à Isabelle. Alors, on n'a pas retrouvé Mélissa, mais nous avons Coco au standard de Sud Radio. Bonjour, Coco.
Bonjour.
Coco, vous avez un chien. C'est un beauceron, je crois.
Oui, c'est ça, un beauceron noir et feu.
Et alors, que fait-il comme bêtise, votre chien?
Eh ben, en fait, il m'oblige à avoir un sacré budget culotte.
Ah, un budget culotte, petite culotte.
C'est ça. Il est à fond sur mes culottes.
D'accord.
Il mange mes culottes, mais il les mange vraiment. Mm-hmm. Il va les chercher dans le panier de linge sale, il va les chercher même dans la machine à laver.
Ah oui.
Et ah ouais ouais. C'est même et de temps en temps dans le jardin, je retrouve je vois au loin des petits bouts rouges ou des petits bouts
d'accord.
bleus et
ben bon.
Voilà, c'est des petits bouts de culotte.
Donc grâce à vous l'industrie de la lingerie se porte bien, enfin grâce à votre chien.
Exactement.
Bon, alors là Chloé, on a vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les petites culottes de Coco?
Alors déjà, j'aurais une question. Est-ce qu'il a ce comportement en votre absence ou même si vous êtes présente, il va quand même aller chercher vos sous-vêtements pour les manger?
Alors, plus particulièrement en mon absence et alors même d'accord. quand je suis dans la maison mais qu'il sait que je suis loin ouais. et que je suis occupée, il va le faire quand même.
D'accord, ok. Alors là, il y a de fortes chances que votre chien est attaché à vous, ce qui est une bonne chose, mais peut-être un peu trop, ce qui fait que quand vous n'êtes pas avec lui ou clairement absente, il vous cherche. Et en fait, pour un chien, il faut savoir que l'odorat, c'est le sens qu'il a le plus développé. Donc la façon qu'un chien a de chercher quelque chose, c'est pas visuellement, c'est olfactivement. Et du coup, c'est vrai que les vêtements, c'est des zones qui ont plus notre odeur et qui vont donc le rassurer un peu plus. Il va se dire, j'ai pas mon maître, mais j'ai, on va dire, un substrat, quelque chose. Il y a l'odeur de mon maître, donc ça passe. Donc, le travail se fait vraiment dans la relation qu'on a avec son chien à ce moment-là. L'idée, c'est de lui apprendre que je suis pas là, mais c'est cool pour toi, c'est pas grave. Donc, ça peut se faire dans un premier temps quand on est présent, de pas systématiquement répondre aux besoins de son chien quand il a besoin d'un câlin ou de quelque chose, de pas tout le temps être OK avec ça, pour qu'il comprenne déjà à être un peu plus indépendant, même quand on est avec lui.
Est-ce qu'il est très demandeur de câlins, Coco, votre
oui,
bosseron?
Oui, non, mais c'est tout à fait...
C'est un pot de colle, hein.
Ça résonne fortement ce que dit
Chloé.
Parce que franchement, je suis vraiment... Chloé, pardon. Parce que oui, je lui fais trop de câlins et il vient vraiment trop me demander toujours des câlins. Mais...
Après, c'est très bien qu'il y ait une belle relation. Ce qu'il faut juste, c'est qu'il apprenne à être un peu plus indépendant quand vous ne pouvez pas le faire. Donc, ça peut être typiquement de lui donner un jouet d'occupation à la place d'un câlin à ce moment-là pour lui permettre quand même d'obtenir quelque chose, mais qui ne vient pas de vous. Et puis aussi, au moment du départ, lui montrer que c'est super fun et qu'à ce moment-là, on va sortir le super jouet ou la super friandise d'occupation qu'il aura que quand on part pour créer un apprentissage qui est finalement quand est-ce que tu pars, que c'est d'avoir mon super jouet.
Et est-ce que lui laisser, par exemple, un foulard avec l'odeur de coco, ça peut être une solution ou vous le conseillez pas trop?
Du coup, là, étant donné qu'il a déjà réussi à se soulager en ayant ce comportement, il risque de continuer de le faire ou de manger finalement le vêtement qu'on va laisser. Donc voilà, le travail sera plus sur la cause, c'est-à-dire pourquoi il fait ça. Parce qu'il est un peu anxieux quand son maître n'est pas là, donc on va travailler vraiment cette relation. Pareil, ne pas hésiter à aller voir un éducateur qui donnera tous les autres conseils adaptés à votre situation en particulier. Mais voilà, après, c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut regarder, c'est le côté détachement, pour que le chien soit un peu plus indépendant quand vous n'êtes pas là.
Et sinon, est-ce qu'il fait des bêtises, Coco, quand vous êtes absente? À part ça, on a bien compris les petites culottes, mais est-ce qu'il détruit vos chaussures?
Non, vraiment, ils sont deux. Hein. J'ai un mâle et une femelle, mais lui, non, ils font pas de bêtises particulièrement, non.
C'est
non,
juste ça.
Ouais.
Ben écoutez,
à moi de ranger mes culottes aussi, mais il va les chercher.
Non, s'il va les chercher dans le panier à linge sale, quand même, c'est clair. Il y a un peu une obsession pour les petites culottes. Écoutez, Coco, essayez de mettre en place les conseils que vient de vous donner Chloé Fesch, notre éducatrice. Et puis rappelez-nous pour nous dire si ça se passe bien, si votre animal a compris, votre bosseron a compris que il doit peut-être s'attacher à d'autres choses qu'à vos petites culottes et vivre sa vie. Paisiblement, même en votre absence, parce que tout va bien se passer pour lui. Je vous souhaite un excellent week-end, Coco.
Merci beaucoup, au revoir.
Revenons avec Sandy pour parler des chats. Sandy, alors, je pense que beaucoup de nos auditeurs ignorent qu'un chat, ça s'éduque. Comment on procède pour éduquer un jeune chat? Parce que, évidemment, plus on commence tôt et mieux c'est.
Alors effectivement, plus on commence tôt, mieux c'est, mais on peut aussi le faire avec un adulte, donc que personne ne désespère. Et c'est basé sur des méthodes qu'on appelle positives, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre que ce qu'il fait lui rapporte quelque chose à lui d'agréable. Donc en fait, on va essayer de trouver quelque chose qui renforce son comportement, quelque chose qu'il adore. Ça peut être une friandise, bien évidemment, ça peut être du jeu, ça peut être une caresse aussi chez certains chats, peu importe ce que vous avez qui plaît à votre chat. Et en fait, quand il a un bon comportement, quand il fait quelque chose que vous appréciez, vous lui donnez sa récompense à ce moment-là. Et comme ça, il apprend que plus je fais ça, plus je suis récompensée, donc il a tendance à le refaire, tout simplement.
Et à partir de quel âge on peut éduquer son chat lorsqu'il arrive dans le foyer? Est-ce qu'on commence tout de suite? Est-ce qu'au départ, on le laisse un petit peu tranquille? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous écoutent ce matin?
On peut conseiller d'aller tout de suite donner des bases, puisque le chaton est en pleine exploration, il apprend et il a peur de rien en plus, donc il va tester absolument tout ce qu'il y a dans la maison, ouais. Par exemple de grimper à des rideaux, ça a l'air super sympa, ouais. Donc on a très bien le droit de le prendre, de le poser au sol tout simplement pour lui expliquer que bah ça non, ça c'est pas très rigolo, et par contre tout de suite après, dès qu'on voit qu'il est un petit peu en recherche de choses à faire, on le fait jouer, on lui propose un endroit où il a le droit de jouer, où il a le droit de faire ses griffes, etc. Donc on peut commencer très tôt, puisqu'effectivement, plus il va comprendre comment ça fonctionne à la maison rapidement, plus il va trouver ça cool et plus ça sera facile, effectivement.
Et le chaton qui a du mal à contrôler ses griffes, là, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors si justement il fait ses griffes, alors soit sur des... Ah, pour le jeu. Alors le jeu, déjà, on évite de jouer avec ses mains avec le chat. C'est très déconseillé, puisque dans ce cas-là, on lui apprend tout simplement que la peau, c'est un jouet autorisé. Et il se peut qu'après, quand il sera un petit peu plus grand, dès qu'il a besoin de décharger son énergie et qu'il a envie de jouer, eh bien il vienne mordre, griffer la peau, peu importe où elle se trouve, même si nous, on n'en a pas envie. Donc c'est pas forcément que votre chat est méchant, pas du tout, c'est juste qu'il a envie de jouer. Donc on évite de jouer avec les mains et on lui propose des plumeaux, des jouets vraiment qui font le même mouvement, si vous voulez, qu'on ferait avec une main, mais qui sont éloignés. Mmh. Et comme ça, il apprend tout simplement qu'il n'y a pas à le faire. Parce qu'il ne veut pas vous blesser, hein, le chat. Il le fait juste par pur instinct de chasse, tout simplement.
Bien sûr. Merci en tout cas à nos deux spécialistes. Chloé, vous allez rester avec moi parce qu'il y a une question veto qui va suivre et on va y répondre toutes les deux. Merci à vous, Sandy, pour vos précieux conseils concernant nos chats. Je rappelle votre site éducateur. Ça permet de mieux comprendre nos petits minous et de mieux vivre au quotidien avec eux. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry.
D'ici quelques minutes, nous essaierons de vous donner des explications sur la grippe aviaire qui sévit actuellement, notamment dans le sud-ouest de la France. Faut-il avoir peur de cette maladie? C'est le professeur Jeanne Brugère-Picou qui nous en dira plus et qui, je pense, vous rassurera. Mais tout de suite, c'est l'heure de la question veto.
Sud Radio Vos Animaux, question veto.
Et c'est Elodia qui a composé le 0826-300-300 pour la question veto du jour, de la semaine même, devrais-je dire. Bonjour Elodia.
Bonjour.
Elodia, vous avez un chien?
Ouais, même deux.
Deux chiens, d'accord. Votre question concerne l'un de vos deux toutous?
C'est ça, le plus jeune.
D'accord. Comment s'appelle-t-il?
Iron.
Iron. Et alors, que se passe-t-il avec Iron?
Bah, là, ce mois-ci, il va avoir un an. Et le problème, c'est que depuis qu'il est tout petit, en fait, impossible de l'envoyer à sa place sans qu'il pleure.
D'accord. Quand vous dites à sa place, vous voulez dire dans son panier?
Ouais, voilà, c'est ça. Dès qu'on l'envoie dans son panier ou qu'on reçoit du monde ou autre, c'est impossible de le remettre dans son panier, qu'il se calme et qu'il reprenne un peu ses esprits, parce que bah, il est tout jeune, il est encore tout fou.
Oui.
Et dès qu'on se met, par exemple, devant lui pour lui faire comprendre tu ne bouges pas de ta place, il se met à pleurer.
D'accord, mais il va quand même dans son panier.
Il y va, mais il pleure.
Il obtempère, mais il pleure. Alors justement, bah, ça tombait bien, puisqu'aujourd'hui, nous avions Chloé Fesch, notre éducatrice, avec nous pour la première partie de cette émission. Et Chloé est restée avec nous. Chloé, qu'est-ce que cela vous inspire quand on écoute le témoignage d'Elodia?
Alors, en fait, quand on éduque un chien, il faut le savoir, on va lui apprendre quelque chose. Et en lui apprenant, on va aussi conditionner une émotion. Et là, ce qui se passe, c'est que l'apprentissage qu'il a fait du panier, a priori, ça va déclencher chez lui une émotion qui n'est pas forcément positive, parce que bah, il se met soit en frustration, ou bon, voilà. Après, à savoir quelle émotion il a dessus, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est pas une émotion positive parce qu'il bah, il y reste pas et puis il pleure, comme la maîtresse l'indique. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est revenir sur cet apprentissage et lui en fait lui montrer que ça a beaucoup de valeur d'être au panier. C'est pas une punition, c'est quelque chose en fait qui est hyper cool. Donc, faut trouver ce qui motive ce chien. Ça peut être de la nourriture, le jouet, etc. A priori, la nourriture est souvent l'ami des maîtres quand on veut éduquer positivement. Et il va falloir reconditionner l'apprentissage du panier pour lui montrer que être au panier puis y rester, c'est agréable. Et après, il faut faire attention aussi à ce qu'on lui apprend, parce qu'il y a l'indication « va au panier ». Et il y a l'indication « reste au panier », qui sont deux choses différentes. Mm-hmm. Donc « va au panier », normalement, c'est juste « tu vas dessus » et puis bah, après, tu te relèves, tu fais ce que tu veux, c'est OK. « Reste au panier », c'est « qui reste jusqu'à ce que je te demande de te lever ou de sortir, que l'indication est finie ». Donc, c'est vraiment deux apprentissages qu'on fait différemment. Et bien sûr, « rester au panier », c'est plus compliqué pour le chien. Ça demande de travailler la durée de l'exercice. Et on va pas commencer à lui apprendre quand il y a des invités. On va le faire d'abord à la maison, tranquille, quand il y a personne. Quand c'est bien acquis, on va faciliter, on va diminuer la durée et on va le faire quand il y a des invités. Donc c'est vraiment progressif, hein, l'apprentissage du chien. Mais là, voilà, je pense qu'il n'est pas dans une super émotion quand on lui demande. Donc il faudrait revenir sur cet apprentissage et ça ira très très bien.
Et qu'est-ce qu'on peut lui donner ou faire dans le panier pour que justement ce lieu devienne un endroit sympa pour lui ?
Alors moi, souvent, ce que je recommande, vu que c'est un jeune chien, en plus, peut-être qu'il mange encore deux fois par jour, donc pourquoi pas prendre la ration du matin, admettons, et ne plus lui donner en ration, mais lui donner plus ou moins dans la journée pour renforcer déjà le panier. Donc régulièrement, on va lui mettre quelques croquettes dans son panier. Quand il est dans son panier et qu'il est posé, on va continuer de le renforcer, donc de lui donner de la nourriture, lui montrer que rester là, rester couché, être calme, c'est bien. Et ça, si on le fait un peu tous les jours, on va déjà vraiment changer cette émotion, cette attitude qu'il va avoir quand il est au panier.
Elodia, est-ce que tout ça vous paraît applicable ?
Oui, et du coup, dans la suite des choses, est-ce que du coup, on peut procéder de la même manière pour lorsqu'il y a du monde qui va venir à la maison pour lui apprendre le reste au panier ?
Exactement. Ça va vraiment être finalement un apprentissage qu'on met à la maison sans distraction pour ensuite pouvoir lui demander quand justement on en a besoin, à savoir quand il y a des invités. N'hésitez pas aussi à anticiper quand il y a des invités. Vous savez qu'ils arrivent ou voilà, vous savez qu'ils arrivent, je sais pas moi, 19h. Et ben à ce moment-là, vous demandez d'abord au chien d'aller au panier. Les invités arrivent et à ce moment-là, vous continuez de renforcer votre chien, de rester dans cet espace-là.
Oui, parce que c'est vrai que quand les invités sont là, on renforce les complications finalement. Donc, il ne faut pas brûler les étapes non plus.
Oui, non.
Exactement.
Bon, bah, écoutez, okay, Elodia, ouais. vous essayez de mettre ça en œuvre, hein ?
Ah oui, dès aujourd'hui.
Bon, bah écoutez, je pense que ça va bien se passer parce que Chloé est toujours pleine de conseils extrêmement pratiques et pragmatiques pour trouver des solutions comme ça aux petits tracas du quotidien qui finalement peuvent se résoudre assez facilement quand on met en place les bons comportements à avoir. Merci pour votre appel, Elodia. On vous souhaite un excellent week-end.
Merci à vous aussi. Bonne journée, au revoir.
Et merci à Chloé Fesch, notre éducatrice, pour ses précieux conseils.
Merci à
Chloé.
Vous.
Allez, tout de suite, notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio, vos animaux, à l'état sauvage.
Et dans cette séquence, pardon, à l'état sauvage, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Jeanne Brugère-Picou, vétérinaire, membre de l'Académie vétérinaire, grande spécialiste des maladies de l'élevage animal. Bonjour Jeanne.
Bonjour Natacha.
Alors Jeanne, la grippe aviaire est une maladie qui peut inquiéter en ce moment les Français. C'est vrai qu'en pleine crise du coronavirus, on est peut-être encore plus attentif à ces maladies que l'on voit arriver par le biais du monde animal. La grippe aviaire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En France, on a régulièrement des épisodes de grippe aviaire. Là, il y a eu deux cas dans des animaleries en Haute-Corse et dans les Yvelines, et puis des cas dans des élevages de canards situés dans le sud ouest de la France. Je crois d'ailleurs qu'un troisième élevage a été déclaré contaminé aujourd'hui.
Tout à fait, tout à fait.
Quelle est exactement la situation de cette grippe aviaire ? D'abord, c'est quoi, Jeanne Brugère-Picou, la grippe aviaire ?
Alors, on dit grippe parce que c'est un virus influenza. Mais en fait, chez les volailles, c'est une septicémie qui est souvent mortelle, rapidement, sans symptômes respiratoires, et on l'appelle plus facilement peste aviaire chez les vétérinaires. Mais les gens ont toujours peur d'utiliser ce terme.
Oui, c'est vrai que le mot peste fait vraiment peur. Et puis en ce moment, on comprend qu'on puisse être un peu affolé quand on parle de maladies animales extrêmement contagieuses avec ce qui se passe avec le coronavirus. On se dit, oh là, c'est quoi encore cette maladie qui nous tombe dessus ? Comment ça se passe chez les volailles ? Parce qu'on a bien compris que c'était une maladie extrêmement contagieuse chez les volailles.
C'est la pire des maladies qu'on peut rencontrer dans les élevages de volailles, parce que c'est extrêmement contagieux et rapidement mortel. À la différence quand même que ce n'est pas dangereux pour l'homme, on a fait très peur, n'oublions pas, en 2005, en disant que la fameuse grippe H5N1 serait la prochaine pandémie. Des médecins, même français, annonçaient cela. L'OMS l'annonçait. Et il faut savoir qu'il n'y a jamais eu adaptation de ce virus H5N1 à l'homme. On a eu, en l'espace de plus de 17 ans, 861 malades, 450 décès, sans transmission interhumaine. Donc, c'était loin d'être une grippe. Donc, on a fait peur et ça reste cette peur.
Alors oui, on a fait peur parce qu'à l'époque, donc, on craignait une transmission des volailles à l'être humain. Donc vous, vous nous dites, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Cette grippe aviaire est une maladie qui concerne exclusivement les animaux et bien spécifiquement les oiseaux.
Exactement, même quand il y a eu le H5N1, j'avais dit que je ne croyais pas à la pandémie parce que c'est une maladie qu'on ne classait même pas dans les zoonoses, c'est-à-dire dans les maladies transmissibles à l'homme. Donc il faut se rendre compte que c'est un problème uniquement vétérinaire et terriblement dramatique pour les éleveurs parce que du point de vue économique, cela arrête les exportations, cela impose d'éliminer les animaux dans les élevages et c'est dramatique.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'en raison de la très grande contagiosité de cette maladie entre les oiseaux eux-mêmes, il faut intervenir de manière vraiment drastique pour éviter une propagation de la maladie. Comment on s'y prend exactement ?
Alors voilà, par rapport d'ailleurs à l'épisode qu'on a déjà connu en 2016 dans des élevages de canards, on peut peut-être se dire qu'on a été plus rapide. Parce que quand il y a un cas dans un élevage, la première chose, c'est qu'on fait une zone dite de protection de 3 km autour du foyer, puis une zone de surveillance 10 km autour.
Ça veut dire la zone de protection ? Qu'est-ce qui s'y passe ?
Alors là,
quand un élevage est atteint, voilà, autour, déjà, 3 km autour, on fait quoi ?
Eh bien, on regarde tout de suite par échantillonnage si d'autres élevages sont contaminés. Et s'ils le sont contaminés, c'est le cas du troisième élevage qui est contaminé sans avoir présenté de symptômes. Mais l'éleveur est obligé d'éliminer ses canards, ses chapons et ses poulets, 500 bêtes, parce que justement, le virus est présent. On veut empêcher la propagation du virus.
Et justement, comment les élevages se contaminent-ils, Jeanne Brugère-Picoux ?
Alors, on était mais entouré par ce H5N8 qui sévit actuellement dans le sud-ouest parce que nous sommes en fait contaminés par des oiseaux migrateurs essentiellement.
D'accord.
Parce que
ce sont eux les réservoirs en fait de ce virus.
Ah, ils le transportent et puis là on peut difficilement contrôler les oiseaux migrateurs.
Bien
donc
sûr.
Quelquefois la France a été bénie des dieux parce que on en avait autour, c'est souvent du H5N8 et on n'était pas touché mais malheureusement cette année on nous sommes touchés.
On a l'impression d'ailleurs que ces épisodes de grippe aviaire surviennent souvent en période de fête, à un moment particulièrement important pour les élevages, puisque avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, forcément les débouchés économiques pour ces élevages sont cruciaux. Il y a une corrélation entre la saison et la survenue justement de cette maladie dans les élevages d'oiseaux ?
Tout à fait, parce que d'abord ce sont les migrations, donc les migrations se font à des périodes précises, et n'oublions pas que les grippes c'est en période hivernale, donc le virus survit beaucoup plus facilement et se transmet beaucoup plus facilement quand il s'agit d'une période hivernale.
Alors vous nous avez rassuré par rapport à la contamination directe des oiseaux à l'être humain, qu'en est-il si on mange un chapon à Noël, si on mange du foie gras, est-ce qu'on prend un risque particulier ou pas ?
Alors, on ne prend aucun risque. Moi, je continuerai à manger. Alors ça, je mange toujours du foie gras et des chapons à Noël. Parce qu'il faut savoir que s'il y a le virus dans un élevage, tout l'élevage est éliminé. Donc, il n'y a aucun risque, en fait, d'avoir le virus à sa table. Et puis, en plus, ce virus, d'abord, n'est pas dangereux pour l'homme. Donc, pour l'éleveur, il n'est pas dangereux. Mais il faut se dire aussi qu'il faut soutenir la filière. Parce que là, c'est dramatique, parce qu'ils ne peuvent pas exporter. Il y a des pays qui refusent d'importer des... Parce qu'en fait, ce qu'on appelle des zones de clonage, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on peut importer des produits de certaines parties de la France qui sont indemnes, mais certains pays refusent complètement tout produit français quand il y a un problème d'influenza.
Oui, même si aujourd'hui les cas sont dans le sud-ouest, ça peut impacter aussi les élevages qui sont en Bretagne parce qu'à ce moment-là, ce sont les exportations globales qui sont interdites. C'est ça que vous voulez dire ?
Tout à fait. Il y a des pays tiers qui peuvent refuser tout ce qui vient de la France parce que nous avons des cas dans le sud-ouest. C'est pas toujours le cas, heureusement, mais c'est dramatique au point de vue économique. Donc, au contraire, les Français, il faut qu'ils soutiennent la filière parce que il y aura moins d'exportations, donc il y aura plus de produits en France disponibles.
Une dernière question, Jeanne Brugère-Picoux, et on a bien compris grâce à vous et on vous en remercie que ce virus de la grippe aviaire n'est pas un virus qui affecte l'être humain. Quel est le lien avec la grippe humaine? Est-ce qu'il y a un lien possible? Pourquoi est-ce qu'on parle de grippe alors?
Alors voilà. Influenza, c'est la grippe. Donc la grippe, par exemple, quand on a eu la fameuse pandémie de 2009, c'était un H1N1, qu'on a appelé d'ailleurs à tort grippe porcine, parce que c'était une grippe humaine. Donc si vous voulez, on a des H3, des H2 ou des H1 dans les grippes humaines, alors que chez les volailles, quand on a une peste, c'est du H5 et du H7.
Alors c'est peut-être un peu compliqué pour nos auditeurs quand vous parlez de H1, H5, on parle du type de virus en fait.
C'est la formule du virus qui change. Mmh. Voilà, c'est pas toujours la même formule qui touche les volailles ou qui touche l'homme quand il y a une pandémie de grippe humaine. Donc il faut se rendre compte que ce ne sont pas les mêmes virus. Si vous voulez, le seul virus qu'on rencontre à la fois chez l'homme et l'animal, c'est la grippe qu'on rencontre à la fois chez l'homme et le porc. Le porc a la même sensibilité au virus grippal humain.
D'accord. Là, vous parlez des virus grippaux, hein, bien évidemment, puisqu'il y a d'autres virus qui peuvent concerner et les êtres humains et les animaux. Et on est malheureusement bien placé en ce moment pour le savoir. Oui. Merci infiniment, Jeanne Brugère-Picoux, pour toutes ces explications. Donc, si je dois résumer, bien sûr, les autorités sanitaires surveillent de très très près les élevages de volailles, car il faut éviter à tout prix une expansion de cette épidémie de grippe aviaire. Mais cette grippe aviaire est une maladie strictement animale, elle ne concerne pas l'être humain. Merci Jeanne, on vous souhaite un excellent week-end.
Merci Natacha, et je pense qu'on aura été assez rapide peut-être cette fois-ci pour empêcher la catastrophe de 2016 avec la propagation de ce virus dans tous les élevages landais.
Eh bien écoutez, on croise les doigts pour que ce soit effectivement le cas. Allez, on marque une courte pause. Au revoir Jeanne, et on se retrouve dans quelques minutes avec une danseuse de Danse avec les Stars, Denitsa Ikonomova.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, c'est votre histoire.
Et dans C'est votre histoire, ce matin, une invitée très spéciale qui nous a envoûtés sur le parquet de Danse avec les Stars. Bonjour Denitsa Ikonomova.
Bonjour.
C'est
bonjour
un plaisir, Denitsa, de vous avoir avec nous. Alors, bien sûr, tout le monde, tous les Français vous connaissent comme une danseuse tout à fait exceptionnelle. Ce qu'on sait peut-être moins.
Je sais pas, mais.
Ah, bah, si. Hein, vraiment, on vous admire, hein. Vous êtes doués, vous nous faites tous danser. Même Maxime, mon réalisateur, m'a dit, oh là là, là là, c'est Denitsa, super.
Oh, c'est trop gentil, merci.
Denitsa, vous êtes aussi une amoureuse des animaux. Et ça, on le sait moins.
En fait, déjà, j'ai une petite chienne. Ça fait 6 ans qu'elle est avec moi et qu'elle ne me quitte plus. Elle est partout avec moi. Je l'amène sur les tournages, pendant les répètes de danse avec les stars. Et en fait, voilà, j'ai grandi avec des chiens. Mon grand-père était zoologue. Du coup, je ne sais pas si ça existe encore, le métier, mais il s'occupait que des chiens de ferme. Et du coup, c'est vrai que, en fait, je suis une grande, grande amoureuse de tous les animaux. Et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, ce week-end, en fait, avec Maxime Dernet, on a décidé de faire un vide communier. On a fait le tri un peu dans notre dressing et on s'est dit bah, pourquoi pas qu'on fasse ensemble un petit vide communier et on donne une grande partie des fonds qu'on va récolter à une association qui défend les animaux.
Alors voilà, c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui mon invité dans cette émission dédiée aux animaux. C'est qu'avec vos camarades de Danse avec les Stars, Maxime Dernet et Katrina Patchett, même si elle est en Australie en ce moment, je crois, vous organisez ce vide grenier avec vos affaires personnelles. Un vide grenier donc qui sera proposé tout le week-end, c'est au Café Zen, 3 rue Poissonnière à Paris, dans le 2e arrondissement. Si vous êtes passionné d'animaux, si vous souhaitez soutenir une association, car l'argent collecté reviendra à l'Arche des associations, rendez-vous au Café Zen pour avoir peut-être un petit morceau de costume de Denitsa. Bon, le costume ne fait pas le talent, donc c'est sûr qu'on ne dansera pas comme vous, mais au moins on participe à la cause animale. Avec nous, Denitsa, j'ai le plaisir également de recevoir Christine Is. Bonjour Christine.
Bonjour Natacha, bonjour Denisa et bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio.
Christine.
Bonjour Denisa, tu vas bien? Oui. Bon.
Christine, restez avec nous. Christine, vous êtes donc la représentante de l'Arche des associations. C'est aussi grâce à vous que ce vide-grenier a lieu ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'Arche des associations?
Oui, bien sûr. Merci, Natacha. Donc, l'Arche des associations, c'est une fédération de 41 associations qui réunit à la fois la protection animale, la médiation et la défense des droits des animaux. Donc, on essaye effectivement de couvrir tous les domaines animaliers parce que, bien effectivement, Denisa est une grande amoureuse des animaux, mais également à l'Arche, on fait le maximum pour faire en sorte que ceux qui sont moins chanceux aient un petit peu plus de chance et soient aussi heureux que ceux, les petits compagnons de Denisa.
Bien sûr. Denisa, c'est un Shiba Inu, je crois, qui vous tient compagnie depuis 6 ans.
Mon petit renard.
Vous avez complètement craqué pour cette petite chienne.
Moi, je pouvais pas résister à ce petit jeu, cette petite fouille, cette boule de poils, en fait. Et du coup, j'ai craqué pour elle. Et là, c'est l'amour de ma vie. C'est ma petite fille. Elle fait partie de la famille. Je la considère pas comme un chien. Je la considère vraiment comme ma fille.
Est-ce qu'elle danse avec vous, Denisa?
Ben, parfois. Déjà, elle est pendant toutes les répètes de danse avec les stars. Du coup, je pense que s'il y a une qui connaît toutes les danses, c'est elle.
Mieux que les stars qui dansent avec vous. On a envie, bien sûr, de la découvrir à vos côtés dans Danse avec les stars. Mais j'imagine que pour vous, qui on sent bien votre passion pour les animaux, soutenir comme ça des petites associations, ça a vraiment du sens aujourd'hui. Vous comprenez les difficultés rencontrées par toutes ces petites associations et le boulot incroyable qu'ils font?
Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai envie de les aider, parce que je sais que le gouvernement, ils aident beaucoup les SPA, en fait, les grosses associations, mais toutes les petites associations, elles n'ont pas beaucoup de fonds, et on a envie de changer ça, et c'est pour ça déjà, moi je m'investis à fond. C'est aussi une grande plateforme de visibilité ce qu'on fait aujourd'hui, pour que les gens puissent prendre conscience, en fait, qu'il y a plein de toutes petites associations qui ont besoin d'aide, et qui sont là, et qui se battent tous les jours pour pouvoir aider nos petites bêtes qu'on adore tant.
Quelle est votre pièce phare qui va être proposée dans ce vide-grenier? Est-ce qu'il y a un objet fétiche que vous allez proposer à la vente?
Déjà, je vends aussi ma robe de demoiselle d'honneur lors du mariage de Alizé, la chanteuse, et Grégoire.
Ah oui.
Je m'en sépare. J'ai mon t-shirt de District 9. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, j'ai fait une émission un petit peu aventurière sur TF1 qui s'appelle District Z, et du coup je vends mon t-shirt qui était porté lors de cette émission-là, et je pense qu'il est déjà parti, parce qu'en ce moment-là, je vous parle, je suis au vide-grenier.
Ah, vous êtes au vide-grenier, mais là vous allez créer l'émeute en disant ça.
Écoutez, il y a des gens qui sont autour de moi.
Alors, puisque vous faites l'annonce, je rappelle l'adresse, vous pouvez aller rencontrer Denisa et trouver les produits qui sont mis en vente par 3 danseurs de Danse avec les Stars. C'est au Café Zen, c'est dans le 2e arrondissement, rue Poissonnière. Denisa, je crois que vous avez monté cette opération en particulier avec votre ami Maxime de Rennes.
Oui, il est à côté de moi, si vous voulez lui dire un petit coucou.
Ah ben très bien, écoutez, passez-nous Maxime, c'était pas prévu, mais c'est un plaisir.
Je vous le passe. Alors, Max, t'es avec cette radio au téléphone, s'il te plaît.
Oui, bonjour Maxime. Mais écoutez, on parlait de cette opération formidable que vous lancez avec Denisa, et je lui demandais quelle était la pièce phare de ce vide-grenier pour elle. Donc elle m'a répondu, et vous, quel est l'élément que vous mettez en vente au profit des associations de protection animale qui vous tient particulièrement à cœur?
Ah oui, ça me tient à cœur. En plus, on est tous les deux parents d'un petit chien.
D'accord, pas le même.
Pas le même.
Chacun le vôtre.
Non, on a chacun d'autres. Mais après, on est vraiment dans des prêts à porter là. Des vêtements. Alors moi, je sais que j'ai des vestes. C'est pas des vêtements de danse. Hein, ce sera pour un prochain vide-grenier. Ça, d'ailleurs, on y a pensé.
D'accord.
Mais en tout cas, là, c'est des vêtements prêts à porter que j'ai pu porter moi sur mes vestes qui sont difficiles de m'en séparer là.
Mais on connaît votre élégance, donc on sait que ce sera savamment choisi.
Voilà, c'est des vestes que j'ai pas portées souvent, parce que c'est souvent des pièces fortes. Donc du coup, quand on les met une ou deux fois, boum, les photographes, ils les prennent, et puis après, on a plus envie de les remettre. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire. Et puis
il y a de jolies choses.
voilà, des vestes de Noël, il y a des jolies robes, là, de Zenitsa, voilà, qu'elle a porté en plus, donc voilà.
Eh bien, écoutez, merci infiniment à vous deux pour votre engagement en faveur de la cause animale. Merci à Denitsa, merci à Maxime de Rennes. Et un grand bravo à Christine Hiss pour ses actions en faveur des associations de protection animale. On vous souhaite un bon week-end et rendez-vous tous au Café Zen. C'est en ce moment que ça se passe à Paris, dans le 2e arrondissement. Allez, très bon week-end à tous, je vous embrasse.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.